Pourquoi vous avez créé ce collectif, les licornes ?
Pour renverser le capitalisme.
Renverser le capitalisme, ça c'est déjà, on est d'accord.
Ça devrait être fini dans quelques minutes.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat. Bonsoir, bonsoir le public. Merci d'être avec nous, le public, vous êtes incroyables. Quel plaisir de vous retrouver ce soir dans cette émission exceptionnelle que nous démarrons avec un before non moins exceptionnel. Ce soir, un before consacré au modèle coopératif. On va tous vous expliquer un sujet qu'on avait déjà plus ou moins abordé avec des petites ou des grandes entreprises qu'on avait reçues sur Backseat. Pourquoi on en parle ? Parce qu'on veut comprendre les alternatives possibles au capitalisme et à l'économie actuelle. Et ce soir, pour en parler, deux invités incroyables, les licornes. En l'occurrence, Béatrice Delpech. Salut Béatrice.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous.
Merci pour l'invitation.
Et également Marion Graffly.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Béatrice, tu es la directrice générale adjointe d'Enercop.
Oui.
Et Marion, tu es la directrice générale de Télécoop.
Oui.
On va commencer très simplement. Marion, c'est quoi Télécoop ?
Alors Télécoop, c'est l'opérateur télécom d'intérêt général. Nous, notre objectif, c'est de proposer des forfaits mobiles, hein, comme n'importe quel autre opérateur. Mais après, la comparaison s'arrête là, parce que nous, notre idée, c'est de proposer des forfaits mobiles qui permettent aux gens de se réapproprier leurs usages numériques,
okay.
Concrètement, de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de passer tellement de temps dans mon téléphone ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire sur mon téléphone ? Et surtout, à quoi c'est utile, le numérique ? L'autre point, et qui est relativement aussi unique sur le secteur des télécoms, c'est que nous, on a un service client qui est basé en France, dont l'idée est vraiment d'accompagner les gens. Donc, chez nous, c'est les conseillères,
okay.
D'ailleurs. Ils ne sont pas là pour vendre des produits, pas là pour vendre des téléphones portables. Ils sont juste là pour accompagner nos clients et de manière générale les citoyens.
Donc, je peux aller chez Free, Orange, SFR, Bouygues, mais aussi je peux aller chez Télécoop.
Ouais.
C'est moins cher, c'est plus cher, c'est...
C'est sensiblement le même prix. Là, en plus, on a grandi. Et donc, c'est un peu aussi l'idée des coopératives. C'est que dès qu'on peut, en fait, on rend la valeur à nos abonnés, à nos salariés, etc. Et donc, on a pu baisser nos prix là, en plus, dernièrement. Donc oui, c'est pareil. Et nous, on est basé sur le réseau d'Orange. Donc en plus, on a une très bonne qualité de service.
Ouais.
Globalement, ça marche très bien.
D'accord, ok. Eh bien, trop cool. Merci, merci Marion. Béatrice, c'est quoi Enercop ?
Enercop, c'est un réseau de 13 sociétés coopératives d'intérêt collectif, okay. Dans le domaine des énergies renouvelables. En fait, on développe trois activités. Historiquement, on est un fournisseur d'énergie renouvelable. On s'est créé au moment où le marché de l'électricité a été ouvert à la concurrence, où des hommes et des femmes qui venaient essentiellement de l'économie sociale et solidaire se sont dit « Est-ce vraiment une bonne idée de laisser l'énergie aux mains d'intérêts privés ?»
C'est une bonne question, c'est une très très bonne question.
On a un peu la réponse 20 ans plus tard.
Carrément, ouais.
Et du coup, je pense qu'elles ne se rendaient pas non plus compte, ces personnes, que ça allait être une galère sans nom de devenir un fournisseur d'électricité renouvelable alternative. Donc elles y sont allées et c'est ce qu'on est devenu. Donc ça fait 20 ans qu'on fournit une électricité 100% renouvelable à peu près 120 000 clients. Ça, c'est la première activité. La deuxième activité, on accompagne des particuliers, des professionnels et des collectivités dans la maîtrise de leurs usages parce qu'on est très attaché à la sobriété, ce qui nous fait un point commun avec Télécoop. Donc, comment est-ce qu'on remet en question les usages qu'on a de l'énergie et comment est-ce qu'on peut diminuer ces usages ? Et la troisième activité, c'est qu'on produit nous-mêmes de l'énergie renouvelable, essentiellement éolienne et photovoltaïque.
D'accord, ok. Et donc, pareil, plutôt que d'aller chez EDF ou un concurrent, je peux aussi aller chez Enercop pour me fournir en électricité. Ok, trop bien. Et merci à toutes les deux, c'est un peu plus clair. Rentrons dans le vif du sujet. Marion, je t'ai déjà entendu dire parfois que tu es l'inverse d'une start-upeuse.
Ouais.
Ça veut dire quoi ? C'est quoi ? Ils t'énervent, les start-upeurs comme moi ?
Ouais, globalement, on peut dire qu'ils m'énervent. En fait, start-up, c'est une entreprise qui a été créée pour grossir très vite, pour être valorisée très rapidement à des millions, des milliards, on ne sait même plus trop, valoriser beaucoup d'argent et concrètement être revendue derrière. Donc l'idée, c'est concrètement de gagner beaucoup d'argent d'un coup parce qu'on va pouvoir vendre son entreprise très cher, etc. Une fois qu'on a dit ça, on ne sait pas trop bien ce qu'ils font, le service qu'ils rendent à la société. Est-ce que vraiment leur produit a un intérêt ? On se rappelle quand même de 2-3 levées de fonds assez mémorables, dont notamment des NFT pour chiens. Enfin, je sais pas si
ouais, je me souviens, ouais, putain.
Voilà, bon, ça, c'est une start-up, par exemple.
T'as sorti le point NFT,
ça, hein.
Forcément,
mais,
oui.
Il n'y a pas que ça, heureusement, mais bon, voilà, c'est typique. Moi, en fait, oui, je pense que je ne suis pas une start-upeuse parce qu'en fait, ce qu'on fait chez Télécoop, c'est qu'on réfléchit, quand on crée des offres, à l'intérêt général. En fait, c'est vraiment ça qui nous guide. C'est-à-dire que notre premier objectif, quand on a créé Télécoop, c'était de dire, en fait, sur le secteur des télécoms, il n'y a que des milliardaires, parce que malheureusement, il n'y a que des milliardaires, à part Orange, hein, mais les autres, en fait, opérateurs télécoms, ils sont possédés par des milliardaires. Leur premier objectif, eux, c'est de chercher le profit dans tout ce qu'ils font, dans leurs activités. Du coup, il y a plein d'impacts néfastes, hein, pour les salariés en premier lieu, pour après l'impact environnemental, etc. Alors que nous, chez Télécoop, ce qu'on cherche à faire, c'est développer une entreprise sur le long terme, sans chercher à la développer trop vite, parce qu'en fait, on pense qu'aussi la bonne manière de faire, c'est de construire quelque chose tranquillement, parce que ça nous permet de bien écouter les besoins.
Genre multiplier ton chiffre d'affaires l'année prochaine, ça ne t'intéresse pas particulièrement, enfin, c'est pas un but en soi.
C'est pas un but en soi, pas du tout. Et l'autre point qui est important, c'est aussi qu'on veut prendre soin de nos salariés. Ça, c'est fondamental dans la manière dont on a créé Télécoop dès les origines. C'est de dire, en fait, c'est aussi une aventure humaine, c'est une aventure collective. On va faire ça ensemble, plutôt que d'essayer de cramer des gens, parce que c'est aussi la réalité des start-upers.
Grave.
Et nous, ce n'est pas du tout notre logique, parce qu'on veut vraiment faire ça au nom du collectif.
C'est aussi bien la réalité dans la téléphonie.
Ben oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, vous avez probablement entendu parler dernièrement, mais donc SFR est probablement en train de se faire racheter. On ne sait pas encore trop, ils sont en pleine tractation. Mais moi, je me suis un peu penchée dans l'histoire d'SFR. Depuis, par exemple, Drahi a racheté SFR, il a quand même supprimé 5 000 emplois. SFR, c'était 15 000 salariés. Il est passé par là, des plans sociaux, dans des conditions vraiment
dégueulasses.
Hein. Enfin, il y a une très bonne série des jours qui retrace en fait toutes ces péripéties. Et il a détruit 5 000 emplois. 5 000 emplois, c'était un tiers des effectifs.
C'est énorme.
Et là, ça va aller plus loin. Enfin, donc bon, c'est clairement, alors ça, c'est le lien au télécom, et c'est le lien aussi au fait qu'on pense qu'en particulier sur ce secteur d'activité qui est hyper concurrentiel, très verrouillé, c'est juste fondamental de dire en fait qu'il faut qu'on réinvente les règles du jeu et qu'on propose des trucs qui soient fairs finalement pour tout le monde.
Béatrice, toi tu dis parfois que l'énergie, c'est pas un bien comme les autres. Pareil, c'est pas une marchandise comme les autres. Moi je paye mon électricité comme tout le monde, mais...
Bah, c'est pas un bien comme les autres. Déjà, à tout le moins, c'est un produit de première nécessité, puisqu'aujourd'hui, ça répond à des besoins qui sont devenus des besoins élémentaires, notamment se chauffer, se nourrir. Je pensais pas forcément seulement à se connecter sur Twitch pour regarder Backseat.
Quel dommage.
Plus directement élémentaires. Donc déjà, premier niveau, à tout le moins, c'est un besoin de première nécessité. Nous, on aime bien dire que c'est un bien commun dans le sens où c'est un bien collectif qui bénéficie à tous et qui doit être géré de manière équitable. Et c'est assez intéressant de mobiliser cette idée de bien commun si on veut réfléchir à comment est-ce qu'on administre correctement ce bien pour qu'il continue de répondre aux besoins de tous et de toutes, et notamment quelle politique on met en place pour sa diffusion. Donc des politiques sur la gestion du réseau, des politiques sur la distribution, sur les tarifs, mais aussi, ce qui nous intéresse, ce que je disais tout à l'heure, des politiques de sobriété. Quel usage on fait de ce bien commun sur de la sobriété, pourquoi pas du rationnement s'il y a besoin, et comment est-ce qu'on administre tout ça pour que ce soit équitable et que ça profite à tous. En France, on a un grave problème de précarité énergétique.
Ouais.
C'est quoi la précarité énergétique ? C'est quand on n'a pas les moyens de faire face à nos besoins vitaux dans notre logement. Ça veut dire concrètement quoi ? Ça veut dire que on habite dans une passoire énergétique où l'hiver on peut pas se chauffer, ou alors il faut faire le choix entre se chauffer et manger correctement, ce qui est quand même un choix assez compliqué, et que l'été on va vivre dans une bouilloire thermique où ça va être insupportable de vivre. En France, d'après, il y a des chiffres selon la police et selon les manifestants. Donc, la police et l'État a estimé qu'il y avait à peu près un peu moins de 5 millions de passoires thermiques.
Ouais.
On a un observatoire indépendant aussi, l'Observatoire national de la précarité énergétique, qui dit qu'il y en a plutôt 7,5 millions des passoires énergétiques. Ça devrait être une préoccupation prioritaire, et on voit bien que toutes les politiques qui visent à lutter contre la précarité énergétique se font sabrer les unes après les autres parce que ça n'intéresse personne, parce qu'on ne considère pas en France aujourd'hui que l'énergie c'est un bien commun. Nous, on essaye de mettre ça sur le devant de la scène.
C'est quoi les licornes ? Avec deux O, je précise. Les licornes, c'est quoi ?
Tu connais les licornes avec un seul O ?
Alors moi, je connais les licornes avec un seul mot, et pour moi, c'est des start-up françaises hyper prometteuses, je crois, plus ou moins.
Côté
en bourse.
Côté en bourse, voilà.
Enfin, non coté, mais valorisé.
C'est pour ça, quand ils m'ont dit on va faire un partenariat avec les licornes, j'ai fait, vous êtes sûr ? C'est pas les mêmes.
Alors nous, on a deux O. Les licornes avec un seul O, c'est ça. C'est des start-up qui sont valorisées plusieurs milliards d'euros.
Je peux vous dire combien, c'est tellement démentiel que pour moi, ça ne veut rien dire.
Mais qui ne sont pas cotés en bourse. Et à un moment, on avait un ministre de l'économie et des finances qui était également un grand littéraire qui voulait absolument qu'il y ait énormément de licornes françaises. C'était son objectif. Il en voulait plein. Et nous, on est allé regarder un peu qu'est-ce qu'elles faisaient, ces licornes françaises. Et c'est exactement ce que tu décrivais tout à l'heure. Pour beaucoup d'entre elles, françaises ou pas françaises, ces licornes, c'est des entreprises qui ont des activités ultra émettrices de gaz à effet de serre et qui ne payent pas forcément leurs impôts en France.
Ah.
Donc nous, on a dit, c'est pas du tout ça dont on a besoin. Enfin, l'économie n'a pas besoin de boîtes qui fabriquent des activités inutiles qui émettent des gaz à effet de serre et qui ne payent même pas leurs impôts en France. De quoi on a besoin ? On a besoin de sociétés coopératives, qui emmènent tout le monde avec elles, qui ont une attention portée à leur utilité sociale et au bien-être de leurs salariés et qui vont avoir des activités qui vont être intéressantes pour tous et pour toutes. Donc c'est un peu un clin d'œil. Licorne avec deux O en pied de nez à ces licornes avec un seul O. Et qu'est-ce que c'est les licornes ? Eh ben, c'est aujourd'hui 16 coopératives qu'on se reconnaît, disons, sous le vocable de coopérative radicale de, coopérative radicale de la transition.
Coopérative radicale de la transition, j'aime bien. Non, c'est
et
cool.
Puis on est présent sur tous les secteurs de l'économie. Parce que l'idée, c'est vraiment de faire la démonstration aux citoyens. Parce qu'avant d'être des clients, des consommateurs, on est aussi des citoyens. Que, en fait, on peut faire le choix de consommer uniquement dans le monde coopératif. Donc, il y a Enercoop et Télécoop, mais il y a aussi, on est présent dans le monde de l'électronique, des mobilités, des transports. En fait, oui, c'est possible de consommer, j'allais dire, uniquement via les licornes et d'être plus qu'un consommateur, d'ailleurs.
Pourquoi, d'après vous, notre modèle économique dysfonctionne ? Qu'est-ce qui justifie la nécessité de créer des licornes, de créer des coopératives ?
De mon point de vue, c'est vraiment la notion de concentration des pouvoirs.
Okay.
Il y a vraiment... D'ailleurs, on en est un archétype, hein, Enercoop et Télécoop. On s'est positionné sur des secteurs qui sont très concentrés dans les mains de quelques acteurs. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est des acteurs qui concentrent le pouvoir économique, qui, du coup, derrière aussi, concentrent le pouvoir d'influence. En fait, c'est des groupes qui ont énormément de pouvoir.
Pouvoir politique.
Et donc, du coup, de pouvoir politique. Dans les télécoms, c'est un peu particulier, en plus, parce qu'ils concentrent aussi les pouvoirs médiatiques. Hein, parce que... voilà, Bouygues, derrière, il y a le groupe TF1. Enfin bref, Free, c'est Xavier Niel, et puis il a racheté deux, trois autres médias. Enfin voilà, c'est assez particulier, mais en plus, c'est ultra concentré. Et donc moi, de mon point de vue, c'est vraiment cette notion de concentration. Et donc, du coup, ça veut dire que notre économie, elle sert l'intérêt de quelques-uns. Elle sert l'intérêt de quelques-uns, et souvent déjà des gens très puissants. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que la meilleure façon de répondre à ces enjeux de concentration du pouvoir, c'était de créer des entreprises qui appartenaient aux citoyens. Enfin, qui sont là dans nos coopératives, tout le monde peut prendre une part. C'est tout à fait possible et à n'importe quel moment. Okay. C'est pas donc c'est en plus ça ouvre complètement les questions économiques à tout à chacun.
On va parler du modèle coopératif. Moi, j'ai entendu beaucoup d'entreprises me tenir des discours on va désormais chercher à avoir un impact. On se donne des objectifs en matière sociale, environnementale, la fameuse RSE, la responsabilité sociale des entreprises ou sociale et environnementale. Pour toi, ça suffit pas ?
En fait, moi, j'aimerais bien y croire, honnêtement. En plus, je suis quelqu'un de foncièrement optimiste. Donc je me dis quand
bienveillante,
quelqu'un,
ouverte d'esprit.
Voilà, j'accueille, je me dis c'est super, on y va, machin, c'est génial. Mais en fait, la réalité, c'est que même des entreprises qui ont décidé de prendre ce pas-là, enfin moi, j'ai vraiment l'exemple de Danone en tête qui m'a marqué, moi, enfin vraiment.
Pourquoi ?
Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Emmanuel Faber, qui était le DG, je ne sais plus, ça fait déjà 5 ans qu'il est sorti, je crois, avait décidé quand même d'une politique assez ambitieuse quand même en termes de responsabilité sociétale, environnementale. C'était bien. Enfin, en plus, pour un grand groupe comme ça...
Danone, c'est énorme. Ouais, ouais.
Énorme. Donc ces gens, s'ils font des petits sauts de puce, ça a des impacts énormes et puis ça va inspirer toute une chaîne de valeur. Enfin, bref, donc je dis ouais, génial, ça avance. Et en fait, Faber, il s'est fait sortir par des actionnaires minoritaires parce que, en fait, concrètement, sa politique qu'il avait décidé de mettre en place dans son entreprise... pour cet actionnaire minoritaire, aller desservir la recherche du profit. Parce que les DG, dans les boîtes classiques, ils sont vraiment intéressés à faire du profit, quoi. C'est leur mandat.
Il y a deux choses quand même. C'est aussi la deuxième réponse à ta question précédente. Pourquoi notre modèle économique dysfonctionne ? Il y a cette immense concentration du pouvoir et il y a aussi le fait que le prisme unique, c'est celui de l'accroissement du profit. Et la deuxième chose, pourquoi ça ne marche pas cette histoire d'impact ? Il y a une mode de l'impact. C'est intéressant de voir aux mains de qui est cette mode de l'impact. Cette mode de l'impact, elle est aux mains des contrôleurs de gestion et des cabinets de conseil. Ce n'est pas un outil de transformation sociale, c'est un outil de contrôle. C'est une forme de capitalisme new look qui essaye de nous faire croire qu'on va faire attention à nos externalités négatives, mais en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on veut contraindre les entreprises à répondre à des indicateurs de performance. On est vraiment dans cette logique-là. Et nous, on est plutôt dans une logique de transformation où on essaye de répondre aux besoins exprimés sur les territoires et d'apporter des réponses différentes.
Alors attends, une coopérative, soyons précis, vous n'avez pas d'actionnaires.
On a des sociétaires.
Alors c'est quoi la différence ?
En fait, d'un point de vue capitalistique, j'allais dire, c'est la même chose. C'est des personnes qui prennent une part, une ou plusieurs parts, dans nos coopératives. Sauf que, en fait, dans nos coopératives, les sociétaires, ils ont un pouvoir de vote qui ne correspond pas du tout au nombre de parts qu'ils auraient pu acheter. C'est-à-dire que chez nous, une personne est égale à une voix.
Quel que soit le montant investi dans la coopérative.
Et ça change tout. Parce bien que sûr, dans sûr. Une société plus traditionnelle, mmh. si tu as 50% des, à toi tout seul ouais. des parts de l'entreprise, bah, tu es à la tête de l'entreprise parce que tu es, t'as le pouvoir. Quoi.
Bah, partout ailleurs, qui a le pouvoir ? Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a le capital. Chez nous, quel que soit le montant que tu as investi, tu as une voix. Si tu veux résumer la situation, tu peux dire qu'on n'est pas, nous, des sociétés de capitaux, on est des sociétés de personnes.
Il y a un truc qui est important parce que vous avez commencé à l'aborder. Quand vous me dites une personne égale une voix, moi, ça me rappelle quand même des trucs. Ça fait doucement penser à la démocratie, ça.
Oui, c'est un ça. Peu l'idée.
C'est...
il y a une vague inspiration.
Alors, est-ce que vous êtes des entreprises démocratiques ?
Oui, ouais. Ça fait partie des mêmes principes coopératifs.
Mais vous fonctionnez comme une assoce ou fonctionnez comment ?
Non, en fait, ce n'est pas du tout les mêmes objectifs. C'est-à-dire que nous, on a un modèle économique. On vend des produits. Enfin, c'est vraiment... Enfin, voilà. Béatrice, elle vend des abonnements à l'énergie. Moi, je vends des abonnements téléphoniques. Quoi. Enfin, on a une activité économique qui est vraiment l'épine dorsale de tout ce qu'on fait.
Okay.
Enfin, voilà. Et qui aussi nous permet notre indépendance. Ça, c'est très important. Sauf qu'en fait, ce que rend possible cette activité, c'est qu'après, on va faire plein d'autres choses avec cet argent. On ne va pas juste chercher à le rendre aux actionnaires. C'est ça qui est hyper important. C'est-à-dire qu'il y a un autre principe fondamental dans les coopératives, dans les SIC en particulier, parce qu'on est une société coopérative d'intérêt collectif. C'est-à-dire que chez nous, tout le monde peut devenir sociétaire, pas seulement les travailleurs. Donc moi, dans Sociétariat Télécoop, il y a aussi bien les abonnés que les salariés, ouais. que des parties prenantes, tous les partenaires qui font vivre le service. Et le deuxième point important, c'est la lucrativité limitée. Ça veut dire que quel que soit le bénéfice qu'on fera, à la fin de l'année, les deux tiers de ces bénéfices, ils sont conservés dans l'entreprise pour servir ses investissements, servir tous les projets fantastiques qu'on fait, construire des éoliennes. Enfin, en fait, c'est ça que ça veut dire, très concrètement, c'est ça que ça veut dire. Et du coup, le tiers restant, on décide de manière démocratique de ce qu'on fait de cet argent sur le principe d'une personne égale à une voix. Et donc, du coup, ça change beaucoup de choses parce que les gens qui viennent chez nous, ils savent qu'ils viennent parce que en se disant, en fait, je vais participer à cette aventure-là. Je ne viens pas juste pour gagner de l'argent avec mes actions, mes parts sociales, etc. Je le fais parce que je vais participer à un projet collectif.
Mais alors, attends, question naïve. Est-ce que ce n'est pas plus dur de trouver des investisseurs si vous avez une lucrativité limitée et si le fait de posséder des actions ne te donne pas plus de voix à l'Assemblée générale ?
Du coup, ce n'est pas des investisseurs, c'est vraiment des sociétaires, dans le sens ce sont des membres. C'est-à-dire que c'est des gens qui adhèrent au projet et qui vont se dire, ben, pour Enercoop par exemple, ils vont se dire, ça nous intéresse de réfléchir à un modèle alternatif de distribution de l'énergie et de production de l'énergie renouvelable. Ça nous intéresse de faire progresser la part du renouvelable dans le mix. C'est le projet politique qui les intéresse.
Ouais.
En fait, la particularité peut-être de nos coopératives, c'est qu'on a à la fois un projet économique comme n'importe quelle entreprise, mais aussi un projet politique. Et les gens qui rejoignent nos coopératives, c'est ce projet politique qui les anime en premier lieu. Après, ça ne nous empêche pas d'avoir des besoins de financement, d'aller discuter avec des banques, avec des investisseurs et de chercher de l'argent pour mener nos projets. Mais nos membres, ce qui les guide et ce qui les anime en premier lieu, ce n'est pas ça.
Tu dirais que ce fonctionnement coopératif, démocratique, représente une force, y compris économiquement ? Par rapport à ma naïveté qui pourrait considérer que ça représente une forme de faiblesse par rapport à vos concurrents qui, eux, sont sans foi ni loi, sans démocratie, ni réflexion sur l'impact, etc. Toi, tu fais oui de la tête, Marion, t'en penses
quoi ?
Ouais,
parce que, en fait, mais même d'un point de vue économique, c'est prouvé. Parce que la pérennité des entreprises coopératives, elle est meilleure que d'autres types d'entreprises. Donc déjà, ça place le débat.
Ouais.
Non, mais parce qu'à un moment où aujourd'hui, on est très sur... Voilà, sur comment est-ce qu'on aide les entreprises à se développer, etc. Bah, oui, c'est très bien, mais il faut aussi se dire quel type de modèle d'entreprise on a envie d'aider, etc., dans une question d'entrepreneuriat. Et ça, pour moi, c'est assez important, c'est-à-dire que les taux de pérennité sont meilleurs. Et au-delà de ça, moi, je dis souvent, aujourd'hui, on a 14 000 abonnés chez Télécoop. On est petit encore, mais on n'a que 5 ans d'existence. Donc, je pense que ça va...
On y croit.
Non, mais je dis ça en rigolant, mais parce que je pense que notre modèle, il plaît de plus en plus. En fait, les gens comprennent de plus en plus ce qu'on est en train de faire. Ils comprennent qu'ils peuvent avoir un pouvoir en nous rejoignant. Et ça, c'est quand même assez fort, en fait, en réalité. Et je dis ça parce que ce que je vois, c'est qu'effectivement, on se développe tous de plus en plus. Et ça veut aussi dire que le modèle coopératif, au-delà de vraiment des fondamentaux qu'il a, il devient de plus en plus attractif. Parce qu'on cherche aussi... une manière de reprendre la main aussi sur des secteurs d'activité, mais aussi sur notre vie publique, parce que c'est ce qu'a dit Béatrice. En fait, nous, on va plus loin que juste servir un abonnement téléphonique, etc. On propose une certaine vision pour notre secteur Et on essaye aussi de faire bouger les autres qui sont sur notre secteur. Parce que...
Ça marche, ça ? Parce que c'était ma question, ma question suivante, c'est que vous êtes toutes les deux, et vous l'avez dit tout à l'heure, dans des secteurs d'activité extrêmement oligopolistiques, concurrentiels, avec des mastodontes qui sont là depuis longtemps, qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence. Vous arrivez à exister ? Vous arrivez à faire fonctionner un contre-modèle comme ça ?
Ben, on en fait la preuve. Nous, ça fait 20 ans qu'on existe.
Ouais.
Donc, oui. Après, nous aussi, on est petit. On a 120 000 clients. C'est tout petit, c'est moins d'1% des parts de marché du marché de l'électricité en France. Donc, on est petit. Après, je ne dirais pas que c'est facile. Objectivement, le chemin est semé d'embûches, notamment parce qu'il y a un isomorphisme très fort. Et notamment,
isomorphisme.
Bah, c'est-à-dire que nous, on a envie d'incarner une alternative. En tout ce qu'on fait, on a envie d'être différent, on a envie de se démarquer des logiques capitalistes classiques, on a envie de prendre soin du bien-être de nos salariés, on a envie de partager le pouvoir, on a envie de partager les valeurs. C'est un discours très minoritaire ou très différent, très disruptif, diraient certains, par rapport à l'ambiance générale. Mais autour de nous, on a des acteurs qui nous accompagnent. Je pense notamment à des financeurs qui attendent de nous qu'on rentre dans des petites cases et donc qui sans cesse nous ramènent à nos différences et qui aimeraient qu'on soit un peu moins différent des autres parce que ça serait plus facile pour eux à gérer. Je pense aux banques, par exemple, aux financeurs. Je pense également pour nous aux autorités de régulation. Ils ne savent pas quoi faire avec nous. On est un ovni.
Ben ouais.
Dans le secteur de l'énergie, parmi les fournisseurs d'électricité qui se sont créés au moment de la libéralisation des marchés, il y a plein de voyous qui se sont créés. Des gens, des traders qui sont venus faire beaucoup d'argent en vendant de l'énergie. Donc il y a quand même une petite musique sur les fournisseurs alternatifs qui ne sont pas des chouettes orgas.
Ouais. Oui.
Mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a nous, par exemple. Et nous, clairement, on est le bon élève. On fait les choses proprement. On a des objectifs d'utilité sociale, des objectifs écologiques, des objectifs de transition. Mais le régulateur, il ne sait pas faire avec nous. On est trop différents des autres pour que ça rentre dans leur case et dans leur fonctionnement. Nous, on a une problématique qui est qu'on aimerait bien pouvoir être un fournisseur d'électricité pour tout le monde. Aujourd'hui, on reste un fournisseur cher. Je ne sais pas si c'est triste parce que ça serait un autre débat, mais par ailleurs, en France, on n'arrive pas à avoir un vrai signal prix sur qu'est-ce que ça coûte vraiment l'énergie.
Ouais, ouais.
Et ce serait très important qu'on l'ait, notamment pour qu'on en ait des usages plus sobres. Mais c'est un autre sujet, peut-être qu'on fera une autre émission.
Mais tu reviendras, on en discute.
On a fait une étude avec un cabinet extérieur pour essayer de comprendre un peu quelles étaient nos structures de coûts. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que cette boîte, elle est venue nous dire « Oui, vous encadrez l'échelle de vos salaires de 1 à 3, donc du coup, vos hauts salaires, ils ne sont pas très hauts, mais ça ne suffit pas à rattraper l'écart par rapport aux autres. » Mais on n'a pas du tout fait ça pour ça. Si on encadre l'échelle de nos salaires, ce n'est pas pour être compétitif. On encadre l'échelle de nos salaires parce qu'on veut partager justement la richesse. Et on ne veut pas qu'il y ait des différences de salaire délirantes entre la personne la moins bien payée et la personne la meilleure. On poursuit pas, on n'a pas le même logiciel.
Mais tiens, tu rentres même pas dans leur case. Quoi.
Non,
ils n'arrivent pas à comprendre. C'est vraiment les ovnis. D'accord, non, c'est super intéressant. Est-ce que vous avez de l'aide de la part de nos chers pouvoirs publics ? En ce moment, ça ne vous aura pas échappé, il y a quelques débats budgétaires qui se passent plus ou moins bien. Mais est-ce que la France met en place des choses pour accompagner ces alternatives que vous représentez ?
Très insuffisamment.
Ouais, j'ai presque dire non.
J'étais polie.
Non, enfin...
Il n'y avait pas une loi sur l'ESS qui a été votée il y a quelques années ?
Si, la loi Hamon.
Elle a vraiment l'intérêt de consacrer ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, et notamment via les statuts. Alors, il y a des problématiques liées à ça aussi, hein, mais globalement, il y a quand même un cadre, et c'est vraiment chouette, parce que ça a fait progresser le sujet, ça a fait progresser aussi la connaissance du grand public de ce que c'est que l'ESS, donc c'est très bien. Mais honnêtement, nous, quand on a monté Télécope, on l'a fait... sans argent. Enfin, il n'y a pas eu de dette particulière. Et même pourtant, dans les 5 ans qu'on a connus maintenant, ben franchement, on a fait le point la dernière fois avec Pierre, avec qui j'ai cofondé Télécope. On s'est dit, mais en fait, non, il n'y a pas eu du tout d'argent public. Et moi, je dirais même que c'est l'inverse. Je pense qu'on aide beaucoup plus, typiquement, les startups, enfin, le programme de la BPI. Quand on regarde la BPI, la Banque publique d'investissement, ce qu'ils concrètement donnent aux coopératives comme nous par rapport à d'autres types de modèles économiques. Enfin, je veux dire.
Ouais, c'est pas.
Voilà.
Ouais.
Même s'ils nous donnent un peu, ça n'est pas du tout comparable dans les tailles de montants dont on est en train de se parler. Donc, de toute façon, non.
Et c'est pareil, on n'est pas dans leur logiciel. Ils nous demandent des taux de rentabilité quand on leur demande d'investir.
Dans la BPI, ils vous demandent ça ?
Oui.
Ah bah oui.
Ils demandent des taux de rentabilité à 12-15%. Bah, ça n'a aucun sens.
Enfin,
nous, on ne peut pas assurer ce type de rentabilité-là. Mais parce que nous, on n'est pas là pour distribuer l'argent qu'on va faire à nos actionnaires, en fait. Mmh. On est là pour avoir utilisé cet argent pour développer nos projets. Donc, il y a aussi un problème de connaissance et de compréhension du modèle, très naturellement.
Vous auriez plus d'argent public si vous étiez moins démocratique, etc. Non, c'est cynique ce que je suis en train de dire.
Non, mais tu vois, par exemple, si tu regardes même en transmission d'entreprise, quand Duralex s'est transformé en Scop, j'ai oublié les chiffres exacts pour être honnête, mais je me rappelle de l'ordre de grandeur. On avait promis une aide publique assez conséquente aux repreneurs privés qui s'étaient intéressés au projet. Finalement, les salariés de Duralex ont décidé de réinvestir leur indemnité de licenciement et de créer une SCOP, une société coopérative ouvrière de production, et de reprendre leur entreprise sous forme coopérative. Ils ont eu 10 fois moins d'argent public que ce qu'on aurait donné à un opérateur. Oui.
Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. D'ailleurs, ça continue, hein, le dossier Duralex. Hein. Je crois que c'est toujours un peu difficile pour l'entreprise. Il y a des infos ces prochains jours, je crois.
Bah, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire une grosse levée de fonds.
Oui, c'est ça, ils lèvent des fonds. Ouais. Et on croise les doigts pour qu'elle fonctionne.
Elle a très bien marché. Quelques heures, ils ont atteint leur objectif. Ouais.
Ah ouais, trop bien, j'avais pas eu l'info.
Incroyable.
Et bah, let's go, vive les SCOP.
Et les SIC.
Et les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif.
La différence entre les deux, c'est assez facile de retenir la différence.
Vas-y, redonne-la-moi.
En fait, globalement, quand les gens connaissent les coopératives, ils connaissent les SCOP parce que c'est très ancien et que c'est le modèle le plus courant. En gros, une SCOP, c'est quoi? C'est quand on va mutualiser et s'approprier nos moyens de production. Une SIC, schématiquement, c'est une SCOP avec pas un petit truc en plus, mais deux petits trucs en plus. Le premier petit truc en plus, c'est qu'on poursuit un but d'intérêt collectif.
Ouais.
Et le deuxième petit truc en plus, c'est ce qu'expliquait Marion tout à l'heure, c'est le fait que là où une SCOP va associer les travailleurs, une SIC, elle va associer toutes ses parties prenantes.
D'accord, je
donc,
l'ai.
Donc ses partenaires, ses clients, etc., etc.
Ok, je l'ai.
Ses salariés, bien sûr.
Pourquoi vous avez créé ce collectif, les licornes? Pourquoi vous voulez peser collectivement? Vous voulez vous faire entendre? Vous voulez vous faire entendre de qui?
Pour renverser le capitalisme.
Renverser le capitalisme, ça c'est déjà, on est d'accord.
Ça devrait être fini dans quelques minutes. Et on pourra faire autre chose.
Clairement. Une fois que c'est fait, on passe à l'apéro. Non, mais en vrai, c'est quand même ça qu'on a comme idée, hein, c'est de dire, on veut pas juste être des alternatives. Hein. Ça c'est vraiment fondamental dans notre ambition, parce qu'on est très ambitieuses, les licornes. C'est pas juste d'être des petites alternatives qui font leur truc dans leur coin. C'est vraiment de changer les règles du jeu. Et la façon dont on l'a fait nous, c'est qu'on a dit, pour faire ça, il faut qu'on fasse la démonstration que sur chacun des secteurs de l'économie sur lequel on est, les modèles comme nous, ils marchent. Et au-delà des marchés, ils grandissent. Et ils proposent des alternatives qui sont non pas juste des trucs pour faire joujou, quoi, mais des trucs qui vont apporter quelque chose, vraiment une plus-value aux citoyens. Enfin, c'est hyper important, en fait, la façon dont on fait ça. Et du coup, bah, on s'est rassemblés parce que la réalité, c'est qu'on est petits, chacun sur nos secteurs d'activité. Et donc, la meilleure manière de faire ça, bah, c'est de mutualiser nos forces, de mutualiser nos moyens pour faire vivre cette idée. Et puis aussi parce que nous, on a à cœur la coopération. C'est hyper important dans tout ce qu'on fait. Et d'ailleurs, ça rend très joyeux, la coopération, je vous le conseille. Parce qu'en en fait, on pense qu'on n'a plus le temps de se lier à des jeux de concurrence. En fait, les enjeux environnementaux sont tellement importants, les questions sociales sont tellement criantes, que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est se rassembler, travailler ensemble, et puis, en fait, juste dérouler, quoi. Faire que ça avance. Donc, c'est vraiment ça, l'idée.
Est-ce qu'il y a d'autres sociétés qui vont vous rejoindre?
Oh bah, c'est bien possible, parce qu'on a vocation à être partout où on pourra montrer que ça fonctionne. Donc, par exemple, on a une petite SIC qui monte dans le domaine de la presse indépendante. Ça devrait vous parler.
Comment elle s'appelle?
COP Média.
Ah mais oui, COP Média. Bah oui, COP, c'est écrit dedans, je suis con. Oui, COP Média.
Il y a tout un tas d'autres secteurs dans lesquels on n'est pas encore, qui pourraient bien nous rejoindre sur le banc des licornes.
Non, mais carrément, ma dernière question, c'est justement, comment est-ce qu'on peut vous aider? Comment est-ce qu'on peut rejoindre le mouvement?
Devenez sociétaire chez nous.
Devenez sociétaire.
Oui, absolument.
Prenez des parts.
Réfléchissez à comment vous avez envie de consommer. Est-ce que vous avez envie que votre forfait de téléphonie paye un actionnaire? Est-ce que vous avez envie que votre Patrick Drahi, est-ce que vous avez envie que votre facture d'électricité elle paye Patrice Pouyanné, ou est-ce que vous avez envie que vos actes de consommation ils permettent de faire avancer la transition écologique juste? C'est ça la question qu'il faut se poser.
Trop bien, merci beaucoup Marion et Béatrice, un tonnerre d'applaudissements.
Merci.